Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui, ce sera le dernier message, la dernière étude concernant le salut. N'oubliez pas que sur l'Internet, j'ai déjà, il y a 2 ans, fait toute une série concernant le salut. Mais le salut est la chose tellement importante que nous avons reçu dans le cœur d'en refaire encore une série. Donc ceci est la dernière étude de cette série concernant le salut. Et demain, Dieu voulant, je commencerai une très importante série concernant la connaissance de Dieu et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Ce sera peut-être une série de passer 60 CD. Je ne peux pas dire exactement maintenant, mais je pense pas bien loin. Mais ce sera vraiment une bénédiction parce que même beaucoup de gens dans les églises ne connaissent pas tellement ce que représente comme importance le problème, la possibilité, et aussi pas seulement la possibilité, mais la bénédiction de pouvoir connaître mieux qui est Dieu pour nous, ce qu'il a fait pour nous, et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, ainsi que le Saint-Esprit. Donc ce sera très important. Chers amis, nous avons donc aujourd'hui la deuxième partie du plus grand commandement qui se trouve dans Saint Matthieu, au chapitre 19, verset 19, où il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce qui est loin, très loin, d'être très facile. Très souvent, le Sauveur prenait pour texte de ses discours les préceptes de la loi morale. Et plusieurs de ces sermons, et quels sermons pourraient se comparer aux siens, ne contiennent absolument rien de cet assemblage de vérités capitales que de nos jours l'on désigne communément sous le nom d'évangile. Chaque fois qu'il se levait pour prêcher à la multitude, le Seigneur ne revenait point sur les doctrines de l'élection, de l'expiation, du salut gratuit ou de la persévérance finale. Non, non, non. Il parlait tout aussi fréquemment des grands devoirs, les devoirs de la vie humaine, de ces précieux fruits de l'esprit que la grâce de Dieu peut nous faire produire. Et ce que j'avance maintenant vous étonne peut-être. Oui, cela peut être étonnant, chers amis, mais relisez avec attention les 4 évangiles et jugez vous-même si je hasarde trop en affirmant qu'une très grande partie du ministère de notre Sauveur a été employée à dire clairement aux hommes comment ils devaient se conduire les uns envers les autres. Il est même tel discours de Jésus-Christ qui a été prononcé aujourd'hui pour la première fois et qui risquerait fort de ne point être classé par certaines critiques de notre époque au nombre des discours pleins de saveur et d'onction, non pas toutefois qu'aucune parole de Jésus-Christ manque de saveur, mais on comprend que sa morale sévère ne convienne que médiocrement à ce christianisme fade et sentimental qui n'embrasse la religion que par son côté abstrait et fait bon marché de son côté pratique. Mes bien-aimés, à l'exemple de leur maître, les serviteurs de l'Évangile sont tenus d'avertir les hommes et les femmes de leur devoir, non moins que de proclamer le salut qui est en Christ. S'ils négligent de prêcher le devoir, je ne pense pas que le Seigneur leur accorde jamais la grâce d'amener des hommes à reconnaître la suprême beauté de la doctrine de l'expiation, et s'ils ne font jamais retentir aux oreilles de leurs auditeurs les tonnerres de la loi réclamant pour leur maître l'obéissance qui lui est due, eh bien je doute qu'ils puissent parvenir à convaincre les hommes et les femmes de leur état de péché, du moins de cette conviction profonde et sérieuse qui mène à la conversion. Alors je sais d'avance que mon discours d'aujourd'hui sera condamné comme manquant de saveur et de vie par ceux d'entre vous qui voudraient que le prédicateur devrait tourner éternellement dans le même cercle de doctrine qui est l'amour de Dieu. Dieu aime tout le monde, même ceux qui ne le méritent jamais, mais il les aime tout de même, ce qui est vrai dans un sens, mais cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce que les êtres humains font aujourd'hui. Mais peu importe, ce méchant monde a quelquefois besoin d'être repris. Et quand l'occasion s'en présente, nous ne devons pas lui épargner les censures. D'ailleurs, si jamais il y a eu un temps où le serviteur de l'Évangile ait eu un besoin réel, voyez-vous, un besoin de rappeler les principes et le précepte contenu dans notre texte, sans contredit ce temps, eh bien, il est bien le nôtre. C'est maintenant que vraiment on voit que l'être humain ne s'aime pas trop les uns les autres. Eh bien, au contraire, si ils pouvaient se détruire les uns les autres totalement et qu'il n'y aurait pas le Seigneur qui les empêcherait, eh bien, ils obéiraient à Satan et ce serait le carnage total. À quelle époque, en effet, a-t-on plus souvent oublié, plus rarement pratiqué, cette parole de Jésus-Christ « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous examinerons en premier lieu le commandement positif que nous donne mon texte. Et puis j'essayerai de vous indiquer quelques-uns des motifs qui doivent vous porter à y obéir. Oui, à vraiment y obéir. Et enfin, je terminerai en rappelant votre attention sur quelques importantes vérités qui ressortent de notre texte. Donc avant tout, occupons-nous du commandement. Jésus-Christ l'a appelé, et vous le savez très bien, le second commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ce qui revient à dire, tu aimeras ton Dieu plus que toi-même. Voilà donc le premier commandement. Et voici, tout de suite suit le second commandement, dont les exigences sont, à la vérité, un peu moindres en apparence, mais qui n'en est pas moins d'une prodigieuse élévation. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'abord, qui dois-je aimer? C'est mon prochain. Par le mot de prochain, nous devons entendre premièrement toute personne qui vit près de nous et par extension, tout membre, quel qu'il soit, de la grande famille humaine. Et cela dans son sens propre, et ce mot signifie voisin ou proche, en sorte que celui-là est essentiellement mon prochain qui vit et qui demeure ou se trouve près de moi, pas très loin de moi. Ainsi, par exemple, le pauvre blessé qui gisait à demi-mort sur le chemin de Jéricho était le prochain du bon samaritain et avait droit à sa compassion par le seul fait qu'il se trouvait sur sa route. Aime donc ton prochain, ô mon frère. Peut-être est-il riche, tandis que tu es pauvre. Ne convoite pas ses richesses et ne nourris dans ton cœur aucune pensée amère à son égard. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il y aura toujours inégalité de fortune parmi les hommes. Ça a toujours été. Sois donc content de ton sort si tu ne peux l'améliorer. Surtout, ne regarde pas ton prochain d'un œil d'envie et ne souhaite pas de le voir réduit comme toi à la pauvreté. Aime donc ton prochain et alors tu ne saurais lui porter envie. Et toi, riche de ce monde, ne méprise point ton voisin parce qu'il est d'une condition autre que la tienne. Ne rougis point de l'appeler ton prochain. Ne rougis point de reconnaître que tout pauvre qu'il est, il a droit, oh oui, il a droit à ton amour. Le monde l'appelle ton inférieur, mais je te prie, en quoi consiste cette infériorité? S'il n'est pas ton égal en position, il l'est en réalité. Dieu a fait naître d'un seul sang tout le genre humain, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Tu n'as pas plus de valeur que lui. Il est homme, femme, et toi, qu'es-tu de plus? Il peut être un homme, elle peut être une femme, en haillons, mais un homme ou une femme en haillons est toujours un homme ou une femme, c'est-à-dire un être qui a été créé à l'image de Dieu. Et quand même tu serais un homme vêtu de pourpre, encore ne serais-tu après tout qu'un homme. Ne manque donc pas d'aimer ton prochain, ô mon frère et ma sœur, et garde-toi de le mépriser, fût-il même tombé au dernier degré de l'échelle sociale. Aime aussi ton prochain, quelles que puissent être ses convictions religieuses, car tu crois que la fraction de l'Église à laquelle tu appartiens est la plus près de la vérité, et tu ne doute ni de ton salut, ni de celui de tes amis qui pensent comme toi. Ton prochain, lui, pense peut-être différemment. Sa religion, selon toi, est erronée et mensongère, mais aime-le malgré cela. Que les divergences qui séparent vos opinions ne séparent point vos cœurs. Cela ne veut pas dire que je dois accepter ce qui pourrait déplaire à mon Sauveur Jésus-Christ, bien entendu. Alors, quoi qu'il en soit, je sais une chose, c'est que celui-là pratique le mieux l'Évangile, qui aime le plus son prochain. Mais il se peut que tu aies affaire à un homme qui n'ait pas de religion du tout. Il insulte ton Dieu, il est sceptique et il s'en fait gloire. N'importe, tu dois l'aimer. Cela ne veut pas dire être d'accord avec lui. Des paroles hautaines ne pourraient que l'éloigner davantage de la piété. Une conduite dure à son égard ne le disposerait pas à devenir chrétien. Aime-le malgré son impiété, ou si bien son péché n'est pas contre toi, mais il est contre ton Dieu. Or ce Dieu n'oublie jamais, tu le sais très bien, se chargera lui-même de tirer vengeance des péchés commis contre lui. Laisse donc ton prochain entre les mains du juste juge. Mais en attendant, si tu peux lui rendre service, lui témoigner de l'intérêt ou de la bienveillance, fais-le sans hésiter. Fais-le de nuit ou de jour. Et si tu établis quelque distinction entre lui et un autre, qu'elle soit plutôt en sa faveur que à son préjudice. Que ta conduite tout entière lui dise clairement, parce que tu n'es pas de ma religion, parce que mon Dieu n'est pas ton Dieu, je veux chercher d'autant plus à t'être agréable afin de te gagner, si je le peux, à la bonne cause. Quoique tu sois un Samaritain hérétique et moi un Israélite orthodoxe, je te considère pourtant comme mon prochain et je veux t'aimer dans l'espérance que bientôt tu ne monteras plus à ton faux temple, mais que tu viendras un jour ou l'autre, bientôt, adorer Dieu, le vrai Dieu, Yahvé l'Éternel, avec moi. Oui, mon cher auditeur, aime ton prochain, et je le répète, quoique sa religion soit autre que la tienne, ce que je vais dire n'est pas facile à accepter, et j'en conviens parfaitement. Un jeune homme vient peut-être de se lancer dans une entreprise et vous craignez que s'il réussit, il ne vous cause du dommage. Gardez-vous surtout de rien faire ou de rien dire qui puisse porter atteinte à son honneur ou à son crédit. Votre devoir est de l'aimer, car bien qu'il soit votre compétiteur en affaires, il n'en est pas moins votre prochain. Peut-être aussi un de vos confrères est-il votre débiteur? Si vous exigez le paiement de sa dette immédiatement, vous le ruinez du coup. Si au contraire, vous lui laissez la somme qu'il a entre ses mains, il pourra faire face à l'orage et sortir heureusement de la crise qu'il traverse maintenant. Quel est votre devoir envers lui ? Vous devez l'aimer comme vous vous aimez vous-même. Et vous devez agir envers lui comme vous voudriez qu'on agisse envers vous. Si vous étiez placé, par exemple, dans les mêmes circonstances, quel que soit celui avec lequel tu entretiens des relations commerciales, souviens-toi donc, ô homme, qu'il est ton prochain. La loi chrétienne ne t'exhorte pas simplement à ne le point haïr, elle t'ordonne de l'aimer. Et quand même il entraverait tes projets, quand même il t'enlèverait ta clientèle, ton crédit ou, ce qui est mille fois pire, ta réputation, encore serais-tu obligé de l'aimer comme toi-même. Cette loi n'admet point d'exception. Tu aimeras ton prochain. Souvent, n'est-ce pas vrai? Nos esprits se soulèvent, nos cœurs se serrent au-dedans de nous. Par exemple, quand nous voyons les iniquités qui s'accomplissent dans les rues de nos grandes villes, nous voudrions pouvoir mettre au banc de la société comme des malédictions vivantes, le pécheur scandaleux, le débouché, la femme de mauvaise vie. Ce sentiment n'est pas bon, il n'est pas chrétien. Nous devons aimer les plus grands pécheurs et loin d'en bannir aucun de la douce région de l'espérance, nous devons faire tous nos efforts pour les ramener au bien. Mon prochain est-il un brigand, un menteur, un scélérat? Me baissant vers lui, eh bien je peux espérer de le relever, pourquoi pas, et en quelque mesure le réveiller dans son âme, ne fût-ce que par une faible lueur, une lueur de dignité morale. Eh bien, je pêche si je ne le fais pas, car le Seigneur m'ordonne de l'aimer comme je m'aime moi-même. Oui, plût à Dieu que ce grand principe soit pleinement mis en pratique. Mais je vous le demande, mes chers auditeurs, en est-il ainsi? Non, vous n'aimez pas votre prochain. Vous savez que vous ne l'aimez pas. Et c'est à peine si vous aimez les personnes qui viennent tous les dimanches invoquer le Seigneur avec vous dans le même lieu de culte. Comment donc pourriez-vous songer à aimer ceux qui ne partagent pas vos croyances? Que dis-je? C'est à peine au humiliant aveu, c'est à peine si vous aimez ceux qui vous sont unis par les liens du sang, qui ont sucé le même lait que vous, qui ont grandi sous le même toit. On a eu part aux mêmes tendresses. Si donc vous n'aimez pas vos amis eux-mêmes, est-il surprenant que vous n'aimiez pas vos ennemis? Que de familles, en effet, sont déchirées par des divisions intestines? Que de frères en guerre contre leurs frères, de proches contre leurs proches. Peut-être y a-t-il un homme, une femme, dans cet auditoire qui, ce matin, avant de venir dans la maison de Dieu, a échangé des paroles amères avec un des siens. Oui, mes chers auditeurs, si vous n'aimez pas ceux de votre famille, vous êtes pire que des païens et vous êtes que des infidèles. Comment donc encore une fois pourrait-on s'attendre à ce que vous pratiquiez dans toute son étendue ce grand et merveilleux et solennel commandement, tu aimeras ton prochain. Je n'ai pas dit que vous devez accepter ce qu'il fait et qui va, s'il continue dans cette voie, le conduire, hélas, finalement en enfer. Mais que vous le pratiquiez ou non, mon devoir et de le prêcher hautement sans ménager les oreilles susceptibles de cette génération rebelle et contredisante. Aussi, je tiens à le redire en termes aussi clairs que possible, mon texte nous impose l'obligation d'abord d'honorer et d'aimer tous les humains, tous les frères et sœurs, simplement parce qu'ils sont nos frères et sœurs, et puis d'aimer d'une façon particulière nos connaissances, toute personne en un mot avec laquelle nous sommes en rapport. Et voyez-vous, cela non point à cause de sa position sociale ou en raison de ses qualités, mais simplement parce qu'elle est notre prochain et parce que Dieu nous a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais voilà que dit un autre, « Non seulement je ne fais pas de mal à mon prochain, voyons, mais je cherche à lui faire du bien. Et lorsque mes voisins sont malades, je leur donne des marques d'intérêt. S'ils sont dénués de toute ressource, je donne même mon argent afin qu'ils soient convenablement soignés. Eh bien, cher ami, tu fais très bien. Tu fais bien, mon cher auditeur. On ne peut assurément qu'approuver ta belle conduite. Toutefois, sache-le, tu peux par exemple donner et pourtant ne pas aimer. Souvent, j'ai vu une aumône qui avait été jetée à un malheureux à peu près comme on jette un os à un chien. Et sans un seul atome de véritable charité, j'ai vu de l'argent donné à un pauvre avec beaucoup moins de civilité que on met d'ordinaire pour présenter un os à un chien. Et cela, croyez-moi, c'est vrai. Vous dites pour la meilleure volonté du monde, je ne peux pas aimer mon prochain. Peut-être pouvez-vous aimer le vôtre, parce qu'il est un peu meilleur que le mien. Mais les personnes avec lesquelles j'ai affaire ont l'esprit si mal tourné qu'en vérité, on perd son temps à vouloir les aimer. Et j'ai souvent essayé, mais à tous mes témoignages de bonne volonté et de bon vouloir et d'affection, elles n'ont répondu que par l'ingratitude, par la froideur et l'insulte. Eh bien, oui, mon cher frère, ma chère sœur, ne te décourage pas. Aime-les toujours, et tu n'en seras que plus héroïque, soldat efféminé. Voudrais-tu donc n'avoir rien à souffrir dans la sainte guerre de l'amour? Sur ce terrain, sache-le bien, la victoire reste toujours au plus vaillant. C'est pourquoi, quelque rude que soient tes premiers pas dans la carrière, avance hardiment, avance sans te laisser rebuter par les obstacles, avance en aimant ton prochain envers et contre tout, en l'aimant s'il le faut, malgré lui-même. Amasse des charbons de feu sur sa tête, et s'il est par sa nature difficile à concentrer ou à contenter plutôt, eh bien, ne te mets point en peine. Non, non, non. Cherche non à lui plaire, mais cherche à plaire à ton maître. Et si ton affection est méprisée par les hommes, eh bien, souviens-toi que ton maître, lui, ne l'a pas méprisé, mais que tout acte de charité et de dévouement, quoique méconnu par celui qui en est l'objet, n'en est pas moins agréable à ton miséricordieux sauveur. Tu aimeras ton prochain. Le jour où ce commandement serait mis en pratique, toute colère, toute violence et toute animosité disparaîtrait de la terre. Oh, cela viendra, mais pas aujourd'hui. Ça viendra au renouvellement de toutes choses, et c'est peut-être pour plus tôt qu'on le pense. Cher ami, tu es parfois indigné de ta propre conduite, et tu peux t'indigner également de celui ou de celle de ton prochain. S'il commet une mauvaise action, eh bien, tu comprendras mieux, mais ta colère contre toi est de très courte durée, n'est-ce pas vrai? Tu n'es pas en colère après toi très longtemps quand tu as fait quelque chose de pas très, comme on dit parfois, de pas très catholique. Tu pardonnes assez tôt, et je n'en doute pas, à ta très chère personne. Eh bien, vois-tu, tu dois tout aussitôt pouvoir pardonner à ton prochain. Si tu lui as dit quelques paroles trop vives, va et retire-les sur le champ, et si tu n'as fait que le reprendre selon la vérité, n'ajoute surtout rien qui pourrait augmenter sa confusion. Quand c'est nécessaire, proteste hardiment contre le péché, mais fais-le avec toute la charité possible. Ne sois pas plus raide qu'il ne faut. Agis envers autrui comme tu agirais envers toi-même. Surtout ne conserve aucune rancune. Que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. Ce n'est qu'à ces conditions-là que tu pourras aimer ton prochain, car il est absolument impossible d'obéir aux paroles de mon texte en nourrissant dans son cœur la moindre pensée de ressentiment ou de vengeance. Mais il y a plus que cela. Tu es tenu d'aimer ton prochain, alors prends donc garde de ne pas le traiter avec indifférence. Ne te néglige pas, mais ne le néglige pas non plus. Intéresse-toi à ce qui le concerne. Peut-être est-il triste ou malade ou abattu. Une simple visite de ta part pourrait lui faire du bien, mais quoique il habite près de chez toi, il ne t'envoie pas chercher, évidemment, car, se dit-il, je ne peux importuner et je ne veux importuner surtout personne. C'est donc à toi, mon cher auditeur, qu'il appartient de rechercher la souffrance de ton frère. Les personnes les plus dignes d'égard, des personnes qui sont dignes d'égard, elles sont celles qui en sollicitent le moins. Oui, c'est vrai, la pauvreté la plus digne de respect est celle qui ne demande pas la pitié. N'attends pas qu'on vienne t'informer de la détresse de tes voisins, mais sois le premier à la découvrir, et autant qu'il te sera possible, viens en aide à chacun selon ses besoins. Et lorsque tu vas voir un pauvre chez lui, ne prends pas, je t'en supplie, cet air de condescendance hautaine que revêt trop souvent la charité. Vas-y non comme si tu étais quelque créature d'un ordre supérieur qui se prépare à octroyer un bienfait, mais comme un simple frère qui vient s'acquitter envers son frère d'une dette à laquelle la nature et l'Évangile lui donnent des droits sacrés. Donc, assieds-toi à son côté, parle-lui, témoigne-lui de l'affection. Et si tu as affaire à un homme aux sentiments fiers et élevés, agis à son égard avec beaucoup de prudence. Garde-toi bien de lui donner ouvertement une aumône, mais assieds-toi près de lui. Assiste-le d'une manière détournée, de peur que tu n'affliges son esprit en voulant le soulager et que tu ne le blesses avec la boîte même de parfum dont tu avais l'intention d'oindre sa tête. Ne lui fais pas de la peine par ta maladresse. Respecte sa susceptibilité, laisse ton offrande sans rien dire, et il oubliera bientôt ce qu'il y a de pénible à recevoir, mais il se souviendra toujours de ta bonté et de ta sympathie. Il me serait impossible, et vous le comprenez, mes chers amis, d'entrer dans tous les développements qu'exigerait le vaste sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je me bornerai donc à observer que l'amour du prochain réduit aussi à néant tout péché qui ressemble à la convoitise, à l'envie ou à la malveillance. Il nous dispose en tout temps à rendre à nos semblables toutes sortes de bons offices, à leur pardonner tout le mal qu'ils peuvent nous faire et à consentir même à leur servir en quelque sorte de marchepied, si par là nous pouvons leur prouver que nous sommes de vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a supporté quand on lui disait, rappelez-vous, des insultes. Il n'en rendait point, jamais. Et quand on le crucifia, quand on le cloua sur le bois maudit, il s'écria, Père, pardonne-leur. Ô chrétien, imite donc ton Sauveur dans son incomparable charité. Qu'un amour invincible, un amour à toute épreuve, un amour si puissant que beaucoup, beaucoup d'eau ne pourrait l'éteindre et que les fleuves mêmes ne pourraient le noyer. Oui, qu'un tel amour puisse habiter dans ton cœur, tu aimeras ton prochain. Et maintenant, il nous reste encore un peu à examiner quelle doit être la mesure de cet amour. Plût au ciel que telle grande dame aima son prochain autant qu'elle aime son épagneul. Plût au ciel que certains riches propriétaires s'intéressent autant à leurs semblables qu'à leurs chevaux ou à leur meute de chiens. Quand ma chère épouse est morte par négligence médicale, il y a 20 ans, je suis allé arroser sa tombe tous les jours, enfin, surtout l'été, quand il fait chaud. Bien entendu, pas l'hiver, mais tous les jours l'été. Et j'ai rencontré deux dames très chics avec leur Yorkshire, des chiens qui coûtent très cher à l'achat. Et je leur ai demandé, vous allez donc arroser la tombe de votre mari défunt? Oui, m'ont-elles répondu, toutes les deux. Et j'ai demandé, si votre Yorkshire venait de mourir accidentellement ou par maladie, est-ce que ce serait plus douloureux pour vous que quand votre mari est mort? Une m'a répondu, eh bien, moi, quand mon mari est mort, il est mort, c'est tout. Mais si mon chien adoré meurt, je me suicide immédiatement. Et l'autre m'a répondu, eh bien, si mon petit chien adoré meurt, je vais faire une grosse dépression. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez fait une grosse dépression quand votre mari est mort d'une longue maladie, comme vous m'avez dit? Non, pas du tout. Eh bien, maintenant, j'en suis débarrassé et je peux faire comme je veux. Chers amis, ça donne à réfléchir, non? Très sérieusement, je crois que l'amour fraternel serait en grand progrès parmi nous si chacun voulait consentir à accorder à ses voisins une aussi grande part dans son affection que celle qu'il accorde à un animal favori. Mais quoi? N'est-ce pas ravaler l'amour du prochain que de le réduire à un tel niveau? Oui, bien sûr, sans doute. Et pourtant, voyez-vous, je crains fort que ce niveau est bien supérieur à celui que la plupart d'entre vous lui avez donné jusqu'ici. N'est-il pas vrai que vous aimez vos frères beaucoup moins que votre voiture, que votre maison ou votre compte en banque? Qu'il est donc élevé, qu'il est donc sublime, la règle d'or de l'Évangile. où il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ô vous, ma très chère sœur, oui, ma chère sœur, vous qui êtes si bien habillée, peut-être vous êtes-vous assise souvent, ici même, dans la maison de Dieu, à côté d'une pauvre femme vêtue, il est vrai, sans aucun chic, mais qui n'en est pas moins une enfant de Dieu. Lui avez-vous jamais parlé? Non, jamais. Et pourquoi cela? Voulez-vous que je vous le dise? Parce que il se trouve que vous avez plus d'euros à dépenser par jour que elle, la pauvre femme, n'a de centimes. Et vous, monsieur le directeur, vous entrez dans cette église la tête haute, fière, vous attendant à ce que chacun vous témoigne le plus grand respect. Et en effet, vous avez droit à notre respect, car vous êtes un homme. Or, le même passage qui nous dit « Honore le roi », honorez le roi, elle nous dit aussi « Honorez tout le monde ». Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 17. Nous sommes donc tenus de nous honorer mutuellement. Mais quant à vous, tout en croyant que plus que personne, vous êtes digne de la vénération publique, que votre seigneurie me permette de lui dire qu'elle serait bien plus grande aux yeux des autres si elle était un peu moins à ses propres yeux. Béni soit donc notre Père céleste, oui, béni soit le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné ce commandement. Car, je le répète, une ère de bonheur se lèvera sur le monde quand ces paroles seront accomplies à la lettre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers amis, jetez-vous aux pieds de celui qui est mort sur la croix. Élevez un regard de foi vers le calvaire, et là, en présence du divin crucifié, devant son corps meurtri et ses plaies sanglantes, peux-tu dire du fond de ton cœur, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, oui, je viens. Peux-tu dire cela, mon frère, ma sœur? Alors ne crains point, Jésus-Christ a accompli la loi à ta place, et la loi ne peut condamner une âme que Christ a absoute. Tu es maintenant libre, car Jésus-Christ a satisfait à la loi. Il a payé le prix total à la croix. Donc, ma prière est très courte. Je m'engage, Seigneur, de vouloir de tout mon cœur d'avoir plus de considération pour mon prochain. Amen. Amen.
Ah non, non, non. C'est pourquoi? Parce qu'il est en train de faire.
Ah voilà.
Attends, ça se dégage. Attends. Oui, attends. Là, c'est raccroché. Mais Dieu. Hein? Tu voulais me parler? Ah ben t'as bien fait. Non, non, mais c'était voulu parce qu'il était en train de faire un CD, tu vois. Ah. Je comprends maintenant.